Nous sommes en osmose. Merci d'être avec nous. On va se balader, évidemment, avec nos différents invités du jour. Et là, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sonia Barcala. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Pas de mort imminente ou de choses autour. Sonia Barcala est notre invitée aujourd'hui parce que vous sortez votre premier livre. C'est un événement quand même. Et si cela
vous arrivez.
Et autour de cette petite question, on a évidemment les expériences de mort imminente. Parce que c'est quelque chose qui, dans lequel vous êtes tombé assez jeune quand même.
C'est ça.
Le sujet.
On peut dire oui.
Alors Sonia, les gens ne vous connaissent peut-être pas forcément, le grand public, mais vous êtes quand même la personne qui a organisé les deux grands rendez-vous internationaux sur les expériences de mort imminente à Martigues et à Marseille.
C'est ça, en 2006 et 2013.
2006 et 2013. Et donc ce livre, et si cela vous arrivait, vous racontez un peu votre histoire en fait.
Je raconte en fait mon parcours à travers les EMI et comment je me suis intéressée et qu'est-ce qui m'a poussée en fait à organiser ces deux rencontres internationales et puis réaliser un film, une chaîne de télé.
Vous n'êtes pas scientifique.
Non.
Vous n'étiez pas du tout dans ce secteur de l'organisation parce que c'est quand même des congrès, c'est pas de la tarte, comme on dit. Et puis, en quelques années, vous rencontrez le professeur Moody, Charbonnier, Ben Alexander, enfin, et d'autres que vous connaissez mieux, que moi je connais pas forcément. C'est impressionnant, quand même. Vous saviez depuis toute petite que vous aviez un truc avec ça,
C'est avec du recul que j'ai compris qu'il y avait des signes, que mon parcours a été jalonné d'événements, et qui me font penser maintenant que c'était prédestiné.
C'est quand on lit votre livre, c'est un peu l'idée qu'on a. On dit, tiens, c'est marrant. Il y a quand même des choses dans la vie.
C'est ça.
Quand on les lit comme ça, on se dit, c'est marrant. Parce que c'est vrai, quand on les vit, il faut peut-être les coucher. C'est ce que ça vous a fait aussi quand vous avez commencé à raconter l'histoire.
C'est ça. Puis ça a été très thérapeutique de l'écrire.
Hein. Ah oui?
Ah oui, parce que justement, après, il y a des souvenirs qui vous reviennent, etc. Et justement, l'histoire du livre que la mairie de Berre a offert à toute la classe quand j'étais en CM2.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Voilà.
C'est sur la réincarnation, là.
C'est la réincarnation, mais ça ne parlait pas que de réincarnation, ça parlait aussi des EMI. Mmh. Ça parlait des OBE, du dialogue avec les défunts, etc. Et puis, c'est un livre que j'ai ouvert que 25 ans plus tard.
Hein. Et puis, ce qui est étonnant, c'est pourquoi offrir un bouquin comme ça? Quel âge vous aviez à l'époque?
10 ans.
À 10 ans?
Oui, c'est ça, oui.
C'est une drôle de...
Pour moi, c'est une erreur, hein, je le dis. Hein,
En même temps, ça coïncide avec le décès de votre grand-père.
Juste après.
C'est quand même étonnant.
Juste après, oui. Juste après, et puis après, le livre de Moody, juste après le décès de mon grand-père. C'est dans la même... En gros, c'est une histoire de quelques mois qui se suivent.
C'est quand Moody, hein, c'est oui. 78 c'est quel
77, Moody.
77, Moody. Mmh.
77, donc le livre de André Nataf, que deviendrons-nous après la mort, les mystères de la réincarnation? Je l'ai eu en CM2, donc je devais avoir 10 ans et demi.
Quand vous ouvrez ça, ça doit vous faire un drôle de truc.
Ah non, à peine j'ai ouvert, quoi, parce que il y avait une tête de pharaon qui était assez, assez impressionnante et qui m'avait fait peur. J'ai pas voulu trop en savoir plus, quoi.
La mort, c'est un truc qui vous travaille quand même depuis tout petite, l'âge de 5 ans, hein, si j'ai bien compris dans le livre.
C'est ça, oui. En fait, j'avais cette conviction personnelle que la mort, ce n'était pas quelque chose de douloureux, mais qu'on quittait le corps. Et que ça continuait. Jusqu'au jour où j'ai posé la question à ma mère, histoire d'en savoir un peu plus, et elle m'a répondu que c'était quand on arrête de respirer. C'est à ce moment-là que j'ai bouché mon nez.
Les premières expériences.
C'est ça. et j'ai vu en fait que c'était horrible, et que j'ai eu plein de compassion.
Ah bah si on essaye comme ça, ça doit être horrible.
Ah oui, non, c'était, oui, c'est ça, je me dis c'est pas possible, quoi. C'est la mort, c'est ça, c'est être privé d'oxygène.
Mais alors voilà. Après la démarche, d'aller vers des expérienceurs, on les appelle comme ça. Ça s'est fait naturellement ou
alors
c'est vous qui avez commencé à chercher ou...
Ça s'est fait à plusieurs étapes en fait, parce que déjà je regardais des émissions de mystère comme beaucoup de Français à l'époque. Hein.
Ouais.
On nous initie un peu au reportage sur l'après-vie. Et puis après, bon, le déclic s'est fait quand j'ai eu un chagrin d'amour, une grosse dépression.
Aurélien.
C'est ça.
D'accord.
Quand tu as le prénom, c'est bien.
Bah oui.
Et puis ça a tourné à une grosse dépression qui a failli mal tourner.
Mmh.
Et à ce moment-là, je suis tombé sur un film documentaire qui est l'adaptation du livre du docteur Moody.
La vie après la vie.
C'est ça. Voilà. La vie après la vie. Et là, j'ai vraiment été bouleversé par ce film et de la sincérité que dégageaient les témoins qui ont vécu une EMI. Et là, je me suis dit, je suis un peu consolé en disant qu'à un moment ou un autre, Aurélien saurait ce que j'ai dans le cœur et puis Et puis que moi aussi, un jour, je voudrais faire un film avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique et cibler un maximum de personnes.
Donc c'est un chagrin d'amour. En général, les films se disent « je vais mourir ». Non, là, vous, c'est plutôt « qu'est-ce qu'il y a après la vie ?»
Ben, disons que mon interrogation se portait pas sur l'après-vie, mais surtout qu'est-ce qu'on en fait dans notre quotidien ici maintenant. C'est quel est le message et comment on peut l'appliquer pour vivre mieux.
Alors, ce qui est, donc, j'explique aux auditeurs, mais ce qui est passionnant de votre bouquin, c'est que c'est un peu un roman et en même temps une enquête, témoignage, enfin de votre vécu, puis des expériences sur les expériences de mort imminente, des ajouts, des interventions de scientifiques. Pas n'importe qui. Vous avez une démarche quand même scientifique, alors vous n'avez pas du tout aucune formation dans le scientifique.
Non, mais à force de rester avec des scientifiques, on devient rigoureuse.
Oui, parce que même quand on lit votre bouquin, vous cherchez à savoir si ça se répète, si on peut reproduire l'opération, comme disent tous les scientifiques.
Alors effectivement, c'est les retours que j'ai, et j'en suis très heureuse. Le livre se lit comme un roman, mais ce n'est pas un roman. C'est vraiment une autobiographie, un journal de bord, comme dirait Patrice Van Hersen, mais je raconte vraiment mon parcours de manière chronologique et en retraçant tous les obstacles que j'ai pu rencontrer,
les hauts, les bas,
les rencontres vraiment exceptionnelles et puis les gens providentiels que j'ai pu rencontrer qui m'ont aidé, quoi.
Puis un grain de folie qui vous habite quand même.
Ah ben ça c'est évident.
Parce que avoir l'idée d'organiser les premières rencontres internationales sur les EMI, l'expérience de mort imminente, déjà, il faut être un peu fou parce que on se veut dire qui on va réunir, comment on va réunir. Surtout c'était en quelle année, je me rappelle plus.
2006. 17 juin 2006.
C'est pas évident, non? Surtout que vous démarrez de rien.
Bah oui, c'est vrai, mais je vous confirme, il faut avoir un grain de folie, il faut être insouciant, être jeune et inconsciente. Et être passionné. Et je crois que c'est la passion qui m'a animé à faire tout ce que j'ai pu faire, mais pas toute seule, parce qu'on ne réussit jamais seul. Des personnes se sont associées à mon aventure pour m'aider, parce qu'ils étaient eux-mêmes animés par l'envie de faire évoluer les consciences et de faire partager toutes ces recherches.
Quoi. Ouais, et puis il y a cette espèce d'énergie que vous mettez dedans aussi, qui attire peut-être des gens autour de vous.
C'est ça qui est incroyable.
Mais quand vous démarrez, vous n'imaginez même pas que le docteur Moody, qui est quand même la sommité absolue dans le domaine, viendrait à votre première.
Non, c'est vrai.
C'est dingue.
Et ça,
à Martigues. Donc, on l'imagine même pas venir là-bas, quoi.
Oui, mais ça, je le dois quand même à Gilles Bédard, qui est un Québécois. Hein, il est président de l'association Niantes Québec. Et lui, il connaît toute la clique de l'équipe de Niantes USA. Il connaît Moody, il connaît Kenneth Ring, etc. Et puis, il m'a dit, écoute, le jour où tu viendras au Québec, ça tombe bien, il vient une fois par an, il donne une conférence, mais tu pourras le rencontrer et je me permettrai de jouer les interprètes pour toi. Voilà. D'accord. Donc, même sans connaître l'anglais.
Et vous l'avez rencontré, vraiment?
À Montréal.
Ça vous a fait quoi? Vous avez dû vous sentir un peu petite, là, non?
J'avais des papillons dans les yeux, mais après, j'ai pris conscience que j'étais à fond, quoi, que j'étais tout excitée devant, face à un psychiatre, quoi. Et c'est ça qui est énorme, comme si c'était une rockstar.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est parce que Moody, c'est l'équivalent d'une rockstar dans le domaine.
Des EMI, mais après, quand on sait que c'est un psychiatre, on se dit, mais que c'est...
voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a l'air très humble, en fait.
Il est très
humble. Abordable, quoi.
Oui, il est abordable, il est accessible.
Alors que son livre a révolutionné quelque chose.
Oui,
Il est sorti, ce bouquin, ça a été une révolution.
Exactement. Ça a permis à beaucoup de gens de mettre un nom sur leur propre expérience. Et puis de voir que c'était un véritable phénomène de société.
Vous, ça vous a permis, en tous les cas, en organisant les rencontres, de rencontrer beaucoup de monde, de parfaire votre connaissance du domaine des expériences de mort imminente.
L'idée, c'était de faire un bilan des 30 dernières années, de 75 à 2005-2006 à peu près.
L'autre intérêt, c'était de réunir des spécialistes qui ne se voient jamais.
Exactement, de créer des connexions. De les faire rencontrer pour qu'ils échangent entre eux et surtout pour que le public les rencontre aussi. Et ça a été un moment très fort et inoubliable à Martigues parce que j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens émus. Lorsque le docteur Pien van Lommel a fait sa conférence, il a eu une standing ovation.
Rappelez-moi, c'était sur lequel, parce que je me rappelle pas tous les noms par contre.
Pien van Lommel, c'est le cardiologue qui a fait cette étude qui a été publiée en décembre 2001 dans la revue scientifique de Lancet. Et donc, sur 344 patients qui ont fait un arrêt cardiaque, et puis il a dit, sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas de... Ce ne sont pas des hallucinations, ce n'est pas dû aux médicaments, ni au manque d'oxygène, etc.
Oui, c'est ça. C'est que très, très sur fort. Les EMI, il y a ça. Mais de moins en moins, quand même. Parce que là, on a quand même des éléments qui disent que les médicaments n'ont rien à voir là-dedans.
Ah non, ça, c'est pas d'aujourd'hui.
Il y a même
ça,
des personnes qui n'ont pas de médicaments, qui font des amis et plus
voilà,
fortes.
Exactement, oui. Mmh. C'est ça, exactement.
C'est ce qu'on apprend aussi dans votre bouquin, d'ailleurs.
Et on apprend aussi que le terme EMI est obsolète, que ça fait plus de 30 ans déjà qu'on sait que les EMI peuvent se produire à n'importe quel moment, chez n'importe quelle personne, qu'importe la culture, la religion, etc. quoi.
On découvre dans votre bouquin qu'on peut même les déclencher artificiellement, avec des électrodes, au niveau de la tempe.
Alors, c'est une observation clinique.
D'accord.
Et c'est encore un phénomène, on va dire, différent. C'est le professeur Olaf Blank. Mmh. C'est un neurologue allemand qui, en stimulant la zone du lobe temporal droit, a provoqué chez une patiente qui était atteinte d'épilepsie des sorties du corps. Chaque fois qu'il stimulait les électrodes,
elle sortait de.
Elle disait qu'elle sortait de son. Quoi. Voilà. Exactement. Donc, et la question que je pose, c'est, alors, le professeur Blanquet dit que c'est un dysfonctionnement du cerveau, et la question que je pose, je dis, mais si vous aviez mis un post-it, et que la patiente aurait pu percevoir ce post-it, quelle aurait été la conclusion ?
Eh oui.
Et voilà, c'est ça.
Parce que c'est vrai que bon ben dans ces situations-là déjà on entend enfin les patients hein, entendent toutes les conversations.
Exactement. Oui.
Ils ont des détails impressionnants. Alors c'est dingue parce que il suffit qu'ils pensent à quelqu'un, pof, ils sont à côté de lui.
Exactement, oui.
C'est ça. Puissant.
Ça c'est très puissant, ben c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de la recherche, il faut continuer à soutenir la recherche. Et
l'avantage de ces histoires de EMI, c'est que ça nous rassure. Vous le dites, hein, les gens qui lisent le bouquin de Moody, ou même quand on lit votre bouquin, tout d'un coup, la peur de la mort s'estompe un petit peu, et on se dit, il y a des faisceaux de preuves, là, qui sont impressionnants. Et puis, c'est des millions de personnes qui témoignent.
C'est ça. Mais
donc, c'est pas n'importe quoi, quoi.
Est-ce que c'est pas parce que ça résonne en nous quelque part? Est-ce que c'est pas une vérité qui est inconsciente et qui résonne, tout simplement?
On sait qu'on est immortel quelque part.
Peut-être, oui.
Bah, on se comporte
c'est un
comme
rappel
ça.
Qu'on est, on se sépare jamais, mais c'est, il vaut mieux. Enfin, en tout cas, c'est vrai que la vérité qui la détient, je n'en sais rien. Mais si ça nous permet de mieux vivre, bah tant mieux, je dis.
C'est un peu comme si on trouvait une porte et qu'on arrive un peu à voir, parce qu'après c'est trop tard.
Oui.
C'est ça que on dit. C'est vrai qu'on cherche à changer le nom parce que expérience de mort imminente, c'est pas vraiment. C'est plus d'actualité vraiment parce qu'en fait on meurt pas complètement. Sinon, on ne revient pas.
Bah, la mort, par définition, est un état irréversible. Mmh. Donc, ça règle déjà le problème. Et puis, même si des gens qui vivent des EMI disent qu'ils se sentent vraiment vivants, ou même parfois, ils disent qu'ils savaient qu'ils étaient morts. Ils savaient qu'ils étaient morts et en même temps qu'ils étaient conscients, etc. Mais de quelle mort parle-t-on ? On parle de la mort physique. Mais on ne parle pas de la mort de la conscience, en tout cas.
Bah oui. Bah alors après, il y a l'idée de l'énergie qui ne meurt pas, qui se renouvelle, etc., qui correspond aussi à quelque chose qui est en lien un petit peu, peut-être.
Pour moi, ils étaient aux frontières de la mort, bien sûr. Mmh.
Hein. Oui, c'est clair qu'on dirait qu'on s'approche de quelque chose.
De quelque chose qui est.
Et puis à un moment, on entend beaucoup, hein, entendre une voix qui leur dit non, mais c'est pas l'heure là.
Exactement.
On retourne. Ou alors on leur montre quelque chose.
On leur montre leurs enfants, la tristesse. Certains reviennent pour leurs enfants, pour leur famille. D'autres pour ils sentent parce qu'ils ont quelque chose encore à terminer. Ils ont une forme de mission, entre guillemets. Hein. Et certains, bon voilà, n'ont tout simplement pas le choix.
Alors vous-même, vous avez été brancardier ? Non.
Brancardière ? Ambulancière.
Ambulancière ?
Oui.
Vous avez eu des témoins directs comme ça
Une fois, oui. Ouais. Ben, une fois, j'ai. Ben, plusieurs fois, mais c'est mon premier témoin recueilli en direct, c'était dans le cadre de. Effectivement, quand j'ai eu mon premier job d'ambulancière. Et c'était un monsieur qui avait été victime d'un accident de moto sur le Jarret, il me semble, à Marseille, et que je vais transporter pour faire un IRM. Et là, il me raconte qu'il a plus peur de la mort, que cet accident a changé sa vie. Et puis là, ça m'avait titillé un peu, donc il a été un peu rassuré quand je lui ai dit « Mais est-ce que vous n'avez pas vu quelque chose ? Vous n'avez pas gardé des souvenirs ?» Puis je me rappellerai toujours de son expression et puis son soulagement.
De pouvoir parler ?
D'être écouté.
Parce que c'est aussi. Alors, il y a beaucoup de points communs entre toutes les personnes qui font des expériences de mort imminente. Alors, on ne sait plus comment l'appeler, mais on va l'appeler comme ça quand même hein, pour l'émission. Ou qui s'approchent de la mort, enfin des frontières de la mort. Il y a ça aussi. C'est qu'ils n'osent pas en parler parce que tout le monde leur dit qu'ils sont tarés. C'est de l'hallucination. On n'a pas envie d'entendre ce genre de choses.
On n'a pas envie.
Donc, on le garde pour soi.
C'est ça, oui. Et c'est un tort, je pense, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que entre toutes les personnes qui ont vécu des EMI des OBE, out of body experience, des sorties du corps, des expériences paranormales. Je me demande s'il n'y a pas plus de gens qui vivent des expériences que de sceptiques. Donc maintenant, je pense que la tendance va s'inverser.
On inverse le, exactement, le truc, les expérienceurs. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs.
Oui.
Et le grand point commun général, c'est que quand on revient, on n'a plus peur de la mort. On change d'idée sur la vie. On a envie que notre vie serve à quelque chose, quoi, que ce qu'on fait serve à quelque chose. On a une notion de l'amour aussi.
La solidarité. Et puis d'aider autrui, en fait. Disons que les valeurs, l'échelle de valeurs est revue. Ce sont les valeurs plus humaines, plus altruistes. Enfin,
cette conscience qu'on est tous liés et que si je fais du bien à Sonia Barcala, ça me reviendra
exactement.
Aussi.
Voilà.
C'est un peu ça. Hein.
C'est ça. C'est vraiment une étape qui me touche vraiment, le bilan de vie. De savoir que lorsqu'on prend conscience que ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même, c'est un concept qui est très important et qui, à mon avis, s'il était développé ou s'il était vraiment compris par tous, ça changerait notre société, ça changerait notre monde.
Ah oui, clairement.
Il n'y a plus de guerre, il n'y aurait plus
de
meurtre.
Déjà entre nous, on ferait plus attention à l'autre. Et voilà. C'est vrai que du coup, ça peut devenir intéressé. On dit, tiens, je vais faire attention à l'autre parce que finalement... Mais on n'a pas encore cette notion-là.
C'est vrai.
On n'a vraiment encore l'idée de chacun pour soi, quoi.
Oui, mais dans tous les cas, les transformations sont très, très importantes et c'est le seul point où les sceptiques, comme les spécialistes, sont d'accord entre eux.
Il s'est passé quelque chose.
Il y a le pouvoir de transformation est vraiment visible, est vraiment là. Ça, c'est le seul point où ils sont d'accord. Et lorsqu'on est plus consciencieux, respectueux de la nature, de l'environnement, des animaux, des êtres vivants, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse.
On vit mieux déjà.
Pardon?
On vit mieux.
Oui, absolument. Oui, c'est plus l'entraide que le matériel ou la réussite sociale ou la compétition, etc.
Ça c'est vraiment le point commun impressionnant.
C'est pas systématique, c'est surtout quand vous avez vécu une EMI positive.
Ce que j'allais dire, parce qu'il y a des négatives
aussi. Il y a des négatives et malheureusement ils en parlent pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que les médias et puis tout le monde, on met tellement en avant des témoignages positifs avec cette idée d'amour inconditionnel, de paysages paradisiaques, etc. que ces gens-là peuvent penser, ou même certains, peuvent porter un jugement en disant ce sont des mauvaises personnes, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Il y a aucune étude qui va dans ce sens. On vit l'expérience qu'on doit vivre pour grandir et pour évoluer.
Voilà. Et c'est peut-être lié aussi aux peurs qu'on a personnellement.
Exactement.
J'ai l'impression que je perçois ça dans votre bouquin.
Oui, c'est ça. C'est qu'on le cas que je relate, c'est un monsieur qui voyait la mort comme le néant. Et puis dans son EMI, il a vu le néant, quoi. Il a ressenti le néant, l'abandon. C'était vraiment terrible, quoi.
J'avais lu un témoignage d'un cardiologue, je crois, qui raconte aussi un de ses patients qui fait un arrêt cardiaque et qui revient en disant non, c'est l'enfer. Enfin, je sais pas, qui est complètement terrorisé. Et chaque fois qu'il reprend conscience, il gueule. De peur et qu'il faut qu'on le sorte de là. Donc le médecin finalement arrive à le sortir de là, mais il est très choqué par ce qu'il a vécu.
Oui, absolument. Mais j'aimerais bien recueillir des témoignages de EMI négatives, ne serait-ce que pour comprendre et puis pour montrer qu'ils ne sont, c'est pas une minorité. Moi, je soupçonne même qu'ils sont plus nombreux.
Ah bon ?
Ah oui.
D'accord. C'est des choses qu'on connaît pas, peut-être que ça fait peur aussi.
Mais c'est normal.
On le voit dans certains bouquins, mais alors dans d'autres bouquins, sur les Castaneda ou quoi, que nos peurs entretiennent des monstres, même s'ils sont
exactement,
virtuels, mais plus on a peur de quelque chose, plus on le voit monstrueux, quoi.
Exactement. Et on revient toujours à la peur.
Exactement. Il y a une question que vous posez dans votre bouquin aussi, on n'a pas tout à fait la réponse. Est-ce qu'il y a un rapport entre la religion et l'EMI, ce qu'on vit, ce qu'on voit, et nos croyances personnelles?
Alors,
Reste un peu sans réponse.
C'est pas que c'est sans réponse, c'est qu'il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas d'éléments non plus.
Il y a des gens, effectivement, qui vivent une expérience et on voit très bien que la culture est connotée. Que l'expérience est connotée plutôt par la culture. Il y en a d'autres qui sont athées et puis qui deviennent croyants et puis vice versa. Moi, j'ai rencontré des catholiques qui sont devenus musulmans et des musulmans qui sont devenus catholiques ou qui sont devenus athées. Il n'y a pas de règle. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais il est vrai que il y a des lorsque les gens sont très croyants, l'expérience est connotée par des figures religieuses. Certains voient apparaître Marie, Jésus.
Ah oui, quand même.
Ah oui.
Effectivement. Mais il y a aussi un point commun, quelle que soit la religion, c'est le tunnel, la lumière blanche.
La lumière et l'amour.
Et c'est, voilà, c'est, ben, c'est, les lumières, c'est impressionnant, et cette histoire d'amour.
Ça, c'est beau. Et puis ouais, le bilan de vie aussi, ce qu'on fait aux autres, on le fait à soi-même.
Ça, vous le retrouvez à chaque fois?
Ça, on le retrouve. Hein. Ah, ouais. Ah oui, ça, on le retrouve.
Ça fait un peu peur, ça.
Ben, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Ouais. Je crois que c'est important, oui. Alors, c'est ce qu'il faut retenir.
Ce qu'on retient bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement sur ce bilan. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit c'est mal. C'est, il me semble, hein, vous en parlez dans le livre aussi. Oh. Bah, ce bilan, on le fait, mais il n'est pas.
Il n'y a pas de jugement.
Ouais, il n'y a pas un dieu avec son jugement. Doigt qui vous dit ça, c'est pas
exactement.
Bon.
Exactement. Voilà. C'est, on fait son propre jugement. Mm. Et c'est ça qui est important.
On est autonome.
Ben, oui.
Quelque part. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que j'aime bien dans votre livre, c'est qu'il y a une partie qui est roman, mais qui est biographie, en fait, qui est votre vie. Et puis, il y a la partie un peu scientifique, recherche sur les UMI. Et dans la partie de votre vie, on voit comment vous essayez de, bah, d'organiser ces rencontres. Et puis, ce qui vous hante, c'est le film.
Oui.
C'est votre truc, ça. C'est ce que vous voulez d'abord, c'est avant tout tourner un film.
C'est ça.
Ça, c'est pas facile.
Ce n'est pas, surtout quand on
ne
connaît rien.
C'est moins facile que d'organiser des rencontres.
Oui, mais surtout qu'on est autodidacte, hein. Mmh. Je veux dire, bon, c'est vrai que les rencontres, j'étais autodidacte aussi. Le film, c'est encore un peu plus compliqué. Mais, j'ai dû apprendre sur le terrain. C'est pour ça que j'ai mis un truc comme 7 ans pour le réaliser, quoi.
On apprend avec vous. C'est ça qui est intéressant. Ben, c'est vrai que vous nous montrez que, par exemple, puisque vous n'avez pas signé un deal avec une chaîne, de oui. télé, c'est plus difficile de passer sur une chaîne de télé. Vaut mieux qu'il y ait une coproduction, par exemple.
Oui, voilà.
Ça, vous l'apprenez après coup, quoi.
C'est ça.
Une fois que le film est fait.
C'est ça, l'expérience sur le terrain.
Oui, voilà. C'est pas évident.
Oui.
Et jamais vous découragez. Jamais vous dites, c'est bon, j'arrête là, j'en ai marre. Bah, on va tout péter, je veux plus entendre parler de ce film.
Bah, j'ai eu des peurs de découragement.
7 ans, c'est long.
C'est normal, oui. Mm. Mais il a quand même eu un destin.
Il a quand même eu un destin. Il a existé, surtout.
Bah, il a existé, j'ai fini par le sortir. Ouais. Pas où je pensais. Pour ça, j'ai eu de gros appuis. Hein. Mmh. J'ai même de gros appuis dans pas mal de domaines. Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas.
Ouais. Mais c'est ce qui est impressionnant dans votre histoire aussi, c'est qu'il y a souvent des appuis qui arrivent.
Oui.
C'est la magie. Ou c'est peut-être l'énergie. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que ça tombe à point, quoi.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai eu les deux extrêmes. J'ai eu des chances vraiment exceptionnelles et des poisses tout aussi exceptionnelles aussi.
Par contre, il y a des liens incroyables. Le film qui s'appelle Faux Départ,
et j'ai
il ne fait que des faux départs.
C'est ça. Et d'ailleurs, tous les pays. Et encore, vous savez, j'ai dû retirer plus de 150 pages du livre.
J'aime beaucoup votre voyage en Israël. C'est impressionnant quand même.
Ouais.
C'est parce que vous appelez Barkala, c'est ça aussi?
Alors, il faut
replacer... béni de Dieu, non, c'est ça?
Oui, c'est ça, mais il faut replacer dans le contexte. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été invité par une thérapeute israélienne.
Pour présenter le film.
Pour présenter le film. Et donc, qui m'a invité à Tel Aviv. Et quand j'arrive à l'aéroport de Marignane, donc Marseille-Provence maintenant, je présente mon attestation, mon invitation officielle, et puis l'agent de sécurité me dit Barkala, c'est quelle origine? Je dis tunisien, ouais. Et il me dit, qu'est-ce que vous allez faire à Tel Aviv? Je vais présenter mon film. Et il me dit, parle de quoi votre film? Et là, je ressens intuitivement qu'il faut pas que je sorte. Je crois que c'est mon corps. Je dis dans le livre d'ailleurs que j'ai ressenti toutes les cellules de mon corps qui me suppliaient de pas dire expérience de mort imminente. Ah, oui. Parce que je sentais ce qui était en train de se passer. Mais sauf que dans l'attestation, c'était marqué. Ah. C'était marqué enquête sur les expériences de mort imminente. Donc, on récapitule. Barkala, expérience de mort imminente qui va en Israël. Ça le fait pas.
Donc plus qu'une ceinture et puis.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont pris mon bagage, ils l'ont décortiqué, hein. Et puis ils m'ont demandé, ils ont fait sortir, ils m'ont emmené dans une pièce et ils m'ont demandé de mettre en sous-vêtements. Deux femmes sont rentrées et puis j'ai eu droit à une fouille avec un détecteur de métaux entre les jambes, sur le ventre, etc. Et ça a été horrible.
Bah c'est bizarre, oui, parce que on imagine donc quelqu'un musulman. Venir dans un pays avec cette idée de mort imminente.
Non, c'est ça, ouais. C'est ça. Ah, ils m'ont fait la misère.
Quand on sait pas ce que c'est, on se demande ce que c'est.
Oui, mais ça,
bon, après, ça s'arrange quand même, hein. D'abord, l'accueil est super, de par l'association.
Oui, voilà, parce que je veux pas qu'on reste sur ça. Parce que, au départ, même quand je suis arrivé à Tel Aviv, j'ai eu droit encore à 2 heures d'interrogatoire par la police. Et l'association a fini par se rendre compte qu'il se passait quelque chose de pas normal. Ils se sont plaints, puis la compagnie s'est excusée. Quand je suis arrivé à Tel Aviv, ça a été l'un de mes plus beaux voyages parce que j'ai été super bien reçu et c'était merveilleux.
Oui.
C'était
ça, merveilleux. C'est vraiment l'anecdote au milieu, mais c'est vrai que l'histoire après elle est très belle.
Ah oui, 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 oui. Non, c'est pour ça que.
Et là aussi, votre film est attendu. Il a pas eu les grands médias, etc. Mais je pense qu'il joue son rôle parce qu'il touche des gens. Il apporte des réponses, il soulage des personnes.
Exactement.
C'est ça que vous constatez au fur et à mesure. Hein.
Exactement, oui, parce que aujourd'hui, il est utilisé, par exemple, depuis 10 ans au CHU de Strasbourg pour les étudiants en médecine. Ça, c'est pas rien.
C'est un grand pas aussi.
Ah ben oui, 500 étudiants qui l'ont visionné et qui sont sensibilisés au sujet. C'est-à-dire que demain, lorsque une personne va vivre une expérience de mort imminente, il a peut-être une chance, surtout si ça tombe sur un médecin qui a vu faux départ.
Oui, c'est une chance qu'un médecin sache de quoi il s'agit.
Voilà, exactement.
Et puisse l'écouter.
Puisse l'écouter, puis surtout d'avoir une autre posture face au patient. Mmh. Savoir quoi lui dire, quoi lui répondre. Et...
Oui, pas cet air dédaigneux, disons, bon, c'est de la connerie.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Allez, raconte puis, ça autre chose.
Quoi. Il est utilisé aussi à l'hôpital de la Timone, dans une unité de soins palliatifs. Et finalement, il a un destin que je n'imaginais pas. Voilà, alors, des fois.
Il est utile. Ça, on le voit aussi au début du bouquin. C'est votre grand-père, non? Qui apparaît, qui vous dit qu'il faut jamais baisser les bras.
C'est ça, voilà. Alors, ça part, cette histoire, c'est un peu le. Je crois que c'est un élément très important qui va déterminer peut-être tout mon parcours.
Et oui,
cette rencontre avec cette médium qui a une capacité particulière, qui voit dans l'eau. Et je suis partie la voir et puis elle me dit, à travers l'eau, elle voit, alors que j'étais chauffeur-livreur, hein, elle voit que...
Puis que vous y croyez pas trop, quand
non,
même.
Non, je voulais même l'induire.
Vous allez là-bas, oui, voilà.
Ah, je voulais même l'induire en erreur. Hein, là. Et puis elle me dit, je vois une salle, je vois de la foule, et puis je vous vois sur une scène, vous êtes entouré de médecins. Et en fait, elle m'a annoncé ça 5 ans avant que j'organise le colloque de Marseille, puis après elle me voit réaliser un film sur la mort, et puis après intervient mon grand-père, elle voit qu'un défunt se présente. Il se présente avec des gants de boxe. Alors oui. Mon grand-père est champion de boxe de Tunisie. Était champion de boxe de Tunisie. Et puis elle dit qu'il a un message pour moi qui propose une image symbolique où je suis sur un ring, que je me bats, que je me prends des coups, que je suis à terre et que surtout quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner quoi. Voilà. Et ça je l'ai retenu.
Keep on the fight, enfin garder le combat, ne jamais arrêter. C'est un petit peu ce que vous définissez aussi, parce que le film c'est super dur, mais à chaque fois vous remettez l'ouvrage.
Ouais, c'est ça, avec des projets toujours plus ambitieux. Ouais.
Les premières rencontres. La rencontre avec Charbonnier me fait beaucoup rire. Donc Charbonnier, bon, les gens connaissent un petit peu quand même, c'est l'anesthésiste, hein, réanimateur, qui lui aussi parle beaucoup d'expériences de mort imminente ou proche de la mort. Ouais. Et donc quand vous le rencontrez, vous lui parlez du film, il se fout de vous. Enfin,
bah, il le dit pas
il
clairement.
Il le dit dans son bouquin
il
après.
Il le dit dans son bouquin, c'est ça.
C'est là
dit...
que vous le découvrez.
C'est ça.
C'est marrant.
C'est ça.
Et elle est folle, quoi.
Ben, elle est bizarre. Et puis après, non, elle est folle parce que quand plus j'avance dans la description de mon projet en lui disant que j'envisage d'inviter Moody, Van Lommel, Parnia et puis toute une clique de spécialistes. Il me regarde un peu de haut. Puis quand je lui dis que j'attends 2000 personnes, alors il a décroché complètement, je l'ai perdu.
Complètement mythomane,
voilà, Martigues. Ouais.
Non, mais en plus, il vous décrit comme quelqu'un qui fonce, non, qui arrive.
Comme un militaire, qui je le regarde comme un missile avec sol, enfin, ouais. Ouais, sur le coup, c'est
vexant. Quand vous l'avez lu, ça doit.
Ah là, j'ai bizarre. Plus,
ouais, parce que vous avez, on a l'impression que vous avez quand même un caractère.
Sans parler, vous vous rendez compte, à peine je regarde comme ça et puis.
Non, mais dans le livre, on s'aperçoit, par exemple, ce médecin dont j'ai oublié le nom.
Oui.
Qui est un grand, qui est éminent, là, qui vous dit que vous n'y arriverez jamais, de toute façon, vous n'êtes pas scientifique, vous n'avez aucune expérience.
John Stone, il n'est pas scientifique, hein, il s'intéresse beaucoup à la science, d'accord. Mais il est.
Alors lui, il vous détruit, quoi.
Oui, oui. Mais il est, comme Jean-Jacques Charbonnier, tous les deux ont une intelligence de s'excuser et puis de reconnaître que je suis allé jusqu'au bout de mes projets, ouais. Quoi.
Bah, c'est à ça qu'on voit leur intelligence aussi.
Exactement.
Ils sont capables de dire, bon, puis finalement. Puis il le raconte dans son bouquin, c'est qu'il a aussi une auto-dérision vis-à-vis de lui-même.
C'est ça, oui.
Quand même, je me suis planté total, quoi.
Ouais,
ouais, ouais. c'est assez intéressant, ça m'a beaucoup fait rire. C'est pour ça qu'on aime bien ce bouquin, c'est qu'il y a tout ça dedans. Ces petites perles de la vie qu'on n'imaginait même pas.
Oui, oui.
Parce que quand on va, même ceux qui l'ont vu, on l'a pu le voir en ligne, hein, le deuxième congrès sur les EMI. Alors lui, il était à Marseille quand même.
Oui.
On a passé un cran. On n'imagine pas derrière Sonia Barcala en train de se battre. En plus, le deuxième était dur. Hein.
Ah, j'ai mal vécu. Le deuxième, j'étais très, très épuisé, très fatigué. Et puis, encore beaucoup d'imprévus, comme à chaque fois que j'organise quelque chose ou que je fais quelque chose.
Mais il faut départ.
Non, mais c'était terrible.
Il faut faire attention au titre que vous donnez, hein, parce que.
Oui, et si cela vous arrivait, bon, on va se dire.
Ça va, oui. Celui-là, vous n'avez pas pris de risque.
C'est ça.
Et les projets. Alors il y avait une chaîne de télé. Vous continuez cette idée ou vous passez
Alors je la reprendrai. Film, je la reprendrai, mais je la présenterai différemment. Ouais. Je crois qu'il faut apprendre à tirer des leçons. À tirer des leçons et puis à rebondir. Donc, je crois qu'il me faut encore un peu plus de recul. Mmh. J'y réfléchis, mais j'accepte ma part d'ombre qui est de recommencer.
Ouais. Voilà. C'est ce qui vous fait le plus peur, on découvre dans le bouquin. Parce que vous allez voir des gens dans le bien-être aussi, dans le développement personnel.
C'est ça, voilà.
Parce que vous cherchez des réponses quand même.
On a l'impression, vu l'extérieur, que je suis poursuivi par la Scoumoun. Ouais. Et puis une amie me dit, mais il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Il faut que tu fasses quelque chose. On t'a jeté un mauvais sort ou un truc comme ça. Et puis je lui dis, mais non, c'est pas possible. Là. Puis elle me dit, oui, c'est pas possible. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc elle me donne des contacts. Donc j'ai joué le jeu. Elle m'a tellement fait peur que je suis parti voir tout, les guérisseurs, les magnétiseurs, les leveurs de mauvais sorts, les marabouts.
Mais celui qui est intéressant, qui vous pose des questions, qui vous pousse au retranchement ultime de dire j'ai peur de la mort, pourquoi?
C'est l'effet miroir.
L'effet miroir.
C'est que ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas chez quelqu'un, c'est votre part d'ombre et votre part de lumière. Donc ma part d'ombre, c'était la peur du recommencement. Mais c'est parti d'un sourcil, hein.
Vous aimiez pas ses sourcils, ils sont ergotiques.
Voilà, c'est ça. Voilà.
C'est dingue ça.
Ouais. Et puis pourquoi? Eh ben pourquoi? Parce que ça me renvoie à ça, au néant, à quelque chose de sombre,
et devoir recommencer.
Et recommencer. Me dire ça, j'ai compris. Votre pardon, c'est la peur du recommencement. Mmh.
Et on fait un film qui s'appelle Faux départ.
Et la chanson qui s'appelle C'était à refaire, s'il vous plaît.
Ah oui, et la chanson aussi. Vous avez une histoire particulière avec Jean-Jacques Goldman.
Pardon?
Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vient faire là tout le long? On le retrouve souvent?
On le retrouve. Je suis fan de Goldman déjà.
Ah d'accord. Il vous a écrit une lettre à Noël, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est ça, quand ça allait pas.
Comment ça se fait qu'il vous écrit?
Parce que je lui ai écrit, il répond.
Jean-Jacques. Ah, il est cool.
Ah, pour ça, il est super, hein, il répond à ses fans. Mmh. Il répond à ses fans et donc je lui ai écrit, je lui ai expliqué qui j'étais, mon parcours, il a demandé quelques conseils et puis il a pris le temps et comme un cadeau de Noël parce qu'il a daté son courrier du 25 décembre.
Oui, c'est ça. C'est
en étonnant. 2016, ouais. Et ça m'a beaucoup touché. C'est le genre de petit cadeau qui.
Et il vous dit quoi? Continuez à combattre, comme votre grand-père. N'abandonnez pas le combat.
Alors, il m'a donné un ou deux petits conseils, mais que je vais garder pour moi pour le moment.
Elle le dit pas dans le livre non plus.
Voilà. Là, je parle aux auditeurs. Je le garde pour moi.
J'ai essayé de sortir les verres du nez, mais ça marche pas.
Non. Et ça m'a aidé à rebondir en fait. Et tout ce que je vais faire maintenant,
Vous avez ça en mémoire?
J'ai ça en mémoire, je vais m'inspirer de ce qu'il m'a dit, pour ne pas l'oublier, voilà.
Ouais. C'est quand même pas n'importe qui, Goldman, c'est un des personnages préférés des Français.
C'est ça.
Puis c'est un monsieur qui a énormément bossé, qui a fait des très belles choses.
Et qui a galéré lui aussi.
Ah oui. Parce qu'au début, on n'y croyait pas trop à Goldman.
Il n'y a aucune radio qui le voulait.
Ah bah ouais, c'est clair.
Et c'est pour ça qu'on s'identifie aussi, chacun peut s'identifier, voilà.
Des parallèles dans le
C'est ça, et puis c'est, il écrit maintenant pour tout le monde. C'est sûr que c'est triste, hein, on aimerait bien le revoir, hein, mais bon, il faut respecter sa volonté.
Ouais, parce que même les Restos du Cœur, c'est fini.
Voilà,
enfin, pour lui. Hein.
Non, il nous a apporté tellement de bonheur qu'on peut pas lui en vouloir. Voilà quoi.
Et vous nous apportez des réponses, des soulagements pour ceux qui ont un peu peur de la mort ou qui se posent des questions. C'est vrai que quand même, ça fait du bien. Alors votre film, je savais pas, je l'avais vu, mais en fait, je l'ai vu. On regarde tellement de trucs comme ça.
C'est ça. Puis,
il a été piraté beaucoup.
Oui.
C'est ça. Hein, vous le dites à un moment aussi dans le livre.
Et puis il a été repris aussi. Il y a des extraits que j'ai vendus à des chaînes aussi quoi.
Ah oui, qui reprennent des petits
morceaux. Voilà. Et puis il y a des intervenants aussi qui ont été interviewés par d'autres réalisateurs qui sont passés à la télé, voilà.
Alors, quand on parle des expériences de mort imminente, c'est vrai qu'on se dit des fois quand même, depuis Moody, les années 77, 78, on a fait le tour.
Eh ben non,
il y a encore des choses qui...
C'est ça. Et c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que c'est...
Vous avez failli arrêter quand même un moment.
Oui, non, parce que
Vous en pouviez plus.
Oui.
C'est vers la fin du livre. Fallait trois quarts. Et puis il y a quelque chose qui fait ch'ting.
C'est ça.
Des nouveaux éléments.
Il y a des nouveaux éléments, ouais.
C'est un truc que vous cherchez tout le temps, c'est-à-dire l'expérience croisée, non? C'est comment on appelle ça?
Un
témoin qui peut témoigner, mais qui n'est pas.
Qui corrobore.
Voilà. Hein.
Il faut qu'il y ait en fait des témoignages corroborés. Ça, c'est important. Mais que ce soit pas un membre de la famille, qu'il n'y ait pas de lien de parenté, un peu comme en justice, si vous voulez.
D'accord.
En justice. On vous fait signer des attestations, des déclarations, et on vous demande s'il y a un lien de parenté ou des intérêts. Oui. Et ben voilà, là on estime que quand il n'y a pas de lien de, il n'y a pas d'intérêt de mentir, il n'y a pas de lien de parenté, eh ben le témoignage a de la valeur.
Oui, il y a plus de valeur parce que les personnes ne se connaissent pas, elles n'ont aucun intérêt.
Surtout avec un témoignage comme la thématique des EMI, on se cache plus que qu'on se demande de.
Mmh. Où est-ce que et je là, vous dire. Nous en sortez une bonne quand même. Hein. Vous l'avez trouvé où celui-là de témoignage
Ben, je le raconte. Hein. C'est quelqu'un que je connais depuis, qui m'avait déjà témoigné en 2012. Donc, qui avait déjà témoigné en 2012. Donc, c'est l'histoire de Jacques. Jacques est un ancien footballeur. Enfin, il était footballeur au moment des faits, il est victime d'un accident de voiture. Et puis, dans cet accident, il perd sa petite amie, sa meilleure amie. Et il est amené aux urgences de Paris Le Monial. Il est déclaré mort. Et pendant ce temps-là, ben, il voit apparaître sa petite amie qui lui demande de venir. Mais lui, il sent que quelque chose d'autre se passe. Mmh. Donc, il suit pas
sa petite amie qui est décédée.
Mmh. Qui venait juste de décéder. Lui, à ce moment-là, il sent que quelque chose d'autre se passe, et puis il est tiré vers la salle de soins. Et il est au-dessus de l'infirmière, et cette infirmière est au téléphone avec sa mère biologique, qui avait entendu dans la radio.
Non, je crois qu'on l'appelle pour lui dire que son fils a.
Non. D'accord. En fait, le chirurgien a demandé à ce qu'on. On demande à ce qu'on prévienne sa famille, mais comme Jacques a été adopté, donc c'était la mère adoptive qu'elle devait appeler, sauf que c'est la mère biologique qui a appelé.
D'accord.
Oui, parce qu'elle a été prévenue par la presse que son fils, qui était connu, qui était un joueur de foot, a eu un grave accident. Et c'est pour ça que donc il entend toute la conversation.
Et il veut pas qu'on l'appelle.
Il est en colère. C'est pour ça que quand je dis que les émotions, l'affect jouent un rôle. Donc, il veut pas. Et puis après, il se dirige vers une autre pièce où se trouve le chirurgien qui est en train de rédiger son acte de décès. Son chirurgien a une particularité, c'est qu'il a des lunettes cassées avec du scotch sur les branches de ses lunettes. Et donc, voilà, Jacques se réveille, voilà sa version. Quand l'infirmière revient, il lui dit « Je veux que vous raccrochiez, je sais que vous êtes avec ma mère au téléphone, je veux pas que vous lui parlez. » Et dites au chirurgien qui est dans le couloir, là, dans l'autre pièce, que je ne suis pas mort.
Et vous le reconnaîtrez parce qu'il c'est celui qui a du scotch aux lunettes.
Voilà, c'est ça.
C'est impressionnant.
Donc ça,
là.
C'est la version de Jacques en 2012. D'ailleurs, il avait témoigné dans une autre radio où j'étais invité. Et je lui avais dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de témoignage? Bon, l'histoire se passe en 81 quand même. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de témoin ou de dossier médical, etc.
Oui, parce qu'on n'a que la personne, la parole de l'expérienceur.
Exactement.
Donc elle peut être mise en doute, évidemment.
Et je ne l'avais même pas filmé à l'époque. C'était juste avant les rencontres de Marseille. Et je me suis dit, bon, c'est toujours pareil, c'est vrai que le témoignage est super intéressant. Et coup de théâtre, en 2019, Jacques me passe un coup de fil et me dit, l'infirmière m'a retrouvé dans les réseaux sociaux, 38 ans après.
Pouf.
Elle me dit, mais vous n'avez pas rêvé.
Elle s'en rappelle,
mais...
C'est que ça l'a marqué grave.
Elle m'a apporté des détails supplémentaires. Elle m'a vraiment apporté des détails supplémentaires et
elle confirme déjà qu'elle est au téléphone.
Oui, c'est mieux que ça.
Que ce mec lui dit,
C'est mieux que ça. C'est qu'elle me dit, mais en fait, Jacques a oublié une séquence. C'est qu'il était surveillé par une aide-soignante. Donc, il ne pouvait pas bouger. Mmh. Et c'est l'aide-soignante qui est partie voir l'infirmière et qui lui a dit, Daniel, le patient s'est réveillé. Il sait que tu es avec sa mère au téléphone. Raccroche, je ne veux pas qu'il parle. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que Jacques a mis fin à une action qui était en cours. Vous voyez la différence? Et Daniel, l'infirmière...
Dont il ne pouvait absolument pas avoir conscience.
Exactement.
Il était où il était, dans la pièce où il était, enfin, aucun rapport.
Voilà, alors ce qui est important aussi de savoir, c'est que Daniel n'est pas... est très cartésienne, elle ne croit pas une vie après la mort.
L'infirmière.
Elle est infirmière, voilà, et puis elle n'a jamais évolué dans le domaine du New Age, ou de l'ésotérisme, etc. Ce qu'elle a vécu, elle est honnête, elle dit oui, je confirme, en toute honnêteté, que j'ai bien été témoin de ce qui est arrivé. Que ça l'a traumatisé à vie, mais que même si elle se pose beaucoup de questions, cela ne prouve pas qu'il existe une vie après la mort, et c'est pas ce qu'on lui demande, bien sûr. Mais en tout cas, merci pour son honnêteté.
Ouais. Ça ouvre beaucoup de questions, en tous les cas.
Ah ben là, c'est...
Dont on n'a même pas les réponses, d'ailleurs.
Exactement. C'est ça. Et ça, c'est le genre de témoignage qui fait réfléchir.
Oui, c'est vrai que c'est impressionnant, parce que c'est vrai qu'effectivement, il arrête. Enfin, l'aide-soignante va dire à l'infirmière, accroche, quoi. Il veut pas parler, c'est pas ça.
Vous imaginez la scène? Vous êtes au téléphone et puis,
c'est impressionnant.
Il y a de quoi être traumatisé, hein.
Oui, dans votre film aussi, il y a des trucs étonnants. Ce monsieur-là qui voit la plaque, là,
Jean Morzane, mais comme je vous disais, c'est le témoignage de Jacques et Daniel est encore plus percutant, parce que là, on a les témoins. Voilà, les sceptiques des cercles zététiques, etc., nous reprochent souvent de dire, on retrouve pas les témoins.
Ah oui, c'est vrai que ce monsieur, voilà. il n'y a pas le médecin qui confirme, c'est ça que vous voulez dire.
Il n'y a pas le médecin qui confirme, on n'a jamais retrouvé plus ou moins la cycle et manufacture, la plaque.
Ah oui, manufacture Saint-Étienne, etc. Voilà. D'accord.
Je connaissais très bien Jean Morzel.
Ceci dit, ça rappelle un petit peu les tests, les expériences que veulent faire certains médecins en mettant des enveloppes.
Des enveloppes ou des cibles comme Saint-Parnien.
Parce que cette plaque, c'est une cible en fait.
Oui, elle était en dessous du lit.
Elle était en dessous. Ah, mais c'est un petit peu sur cette idée-là que des médecins essayent de mettre en place une sorte de protocole pour confirmer que ces gens sortent du corps, qui voient ce qui se passe.
Oui, oui.
Ça marche pas par contre.
Peut-être parce qu'il faut voir le protocole. On aurait été contents, quoi, mais.
C'est très décevant, ça fait partie des déceptions. Donc, quand on lit le bouquin, c'est que quand vous donnez les résultats.
Il y a peut-être des explications. C'est pas parce que l'expérience ne fonctionne pas que c'est faux. La preuve. C'est peut-être qu'il faut revoir le protocole et puis l'améliorer et puis prendre en compte plus l'affect.
Ce que j'allais dire, c'est que là, vous constatez qu'avec l'affect, ça marche mieux, quoi.
C'est ça.
J'arrive plus à parler. Laissez-moi reprendre mon souffle. D'autres choses qu'on apprend dans le bouquin, à la fin, peut-être. J'arrive plus à parler.
Aïe.
Il me faut de l'eau. Au secours. Mais sur la suite, ce que vous allez chercher par la suite.
Ça va vous arriver, hein, attention Serge.
De quoi? Je reviendrai pour vous raconter. vous serez peut-être ça va mieux. Vous serez peut-être le témoin. Je viendrai vous faire arrêter votre communication téléphonique. Pour la suite, on se demande qu'est-ce que vous allez faire. On s'inquiète un peu pour vous, parce que quand même, vous abandonnez, non, mais le sort s'acharne.
Oui.
Plus là, sa société, la télé, les créances. Ça devient compliqué.
Très compliqué, ouais.
Qu'est-ce que vous envisagez là pour... déjà, le bouquin, c'est pas mal, peut-être.
Le bouquin, c'était pas prévu. Je me suis pas levé un matin en me disant je vais écrire un livre. C'est que ça a été une opportunité, un éditeur qui m'a proposé ça.
Et les rencontres, vous pensez en organiser une troisième édition ?
Troisième édition, mais alors je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'ai très envie de le faire. Et généralement, quand je suis à nouveau motivé, je vais jusqu'au bout. Quoi.
Apparemment, vous n'êtes pas du genre à laisser tomber au milieu.
Non, c'est ça, oui.
Puis maintenant vous avez l'expérience. Puisque vous avez les deux premières.
Non,
puis il y a même une image de marque. Je pense que les gens ne... Les scientifiques, tout ça, se disent quand même, c'est pas n'importe quoi. Elle a fait les deux premières, il y avait du monde. Le bilan pour vous de ces deux, c'était dur, non, quand même.
Dur, ouais, c'était dur. Mais bon. En même temps, si ça avait été trop facile, peut-être que ça aurait pas eu la même saveur. Je me dis, on se console comme on peut.
Si vous voulez. Je conseille à nos auditeurs quand même de trouver votre bouquin. Ça va, c'est les éditions Le Lotus et l'Éléphant, c'est-à-dire Hachette.
C'est ça, voilà. C'est une collection des éditions Hachette qui est devenue. Une maison d'édition dédiée à la spiritualité.
D'accord. Lotus et l'éléphant, retenez bien ce nom, chers auditeurs. Et le titre du bouquin.
Et si cela vous arrivait, ces expériences de mort imminente qui transforment nos vies.
D'accord. Normalement, ça devrait tous nous arriver, quoi.
Normalement, ça non, mais on sait pas. Hein, mais en tout cas,
au bout d'un moment, on finira par mourir, quoi. Donc,
oui, mais l'idée, c'est de savoir comment vous allez réagir si le jour où... Cela vous arrive, quoi.
C'est une question que vous posez à la fin qui est assez intéressante parce que on obtient des réponses. Quand on est sur ce cas, quand on vit cette expérience, et vous dites, tiens, on posait des vraies questions.
C'est ça.
C'est pas idiot, ça.
Merci.
C'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Je sais même pas si on est quand on est dans l'expérience, est-ce qu'on peut avoir la présence d'esprit de dire, tiens, je vais demander.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut communiquer pour que les gens puissent dire, une EMI lucide. Et là, ça peut devenir intéressant.
Parce qu'on peut avoir des réponses à des questions.
C'est ça qui est intéressant, bien sûr.
Vous nous donnez quelques questions types qu'on pourra apprendre.
Ça, je sais pas, mais c'est quelque chose à tenter, quoi.
Parce qu'il y a quand même des réponses.
Mais il y a des réponses.
C'est un des constats sur les témoignages c'est qu'il y a des réponses.
C'est ça, voilà.
Bon, votre livre nous apporte quelques réponses, quand même. Mais c'est vrai qu'on se sent mieux. Après, on se dit, tiens, finalement, tout est possible. C'est un peu le message de votre bouquin, c'est quand on suit votre exemple, on se dit, finalement, organiser des trucs incroyables en partant de rien.
Et ça peut arriver à tout le monde, et ça peut D'avoir un rêve en tout cas. Peut-être que peut-être que le livre va susciter d'autres vocations, ou peut-être va donner envie à tous ceux qui ont un projet, un rêve à réaliser, de foncer.
Eh oui, parce que là, on a un très bel exemple. Bon, c'est galère, hein.
Oui, c'est galère. Ouais.
On mettait 7 ans pour faire le film quand même.
C'est pas grave.
Il faut jamais renoncer, en fait. C'est un peu le message du bouquin aussi.
Ça.
C'est ça, hein.
Oui.
Bon, ben, ne renoncez pas, hein. On attend le deuxième volume, les troisièmes rencontres. Le deuxième film aussi, peut-être.
Oui.
Ça vous titille. C'est vraiment le reportage, la vidéo, tout ça, c'est quelque chose qui vous parle, quoi.
Ah oui, la vidéo, ouais. C'est pour ça que j'ai, le rôle du réalisateur, c'est de provoquer des émotions avec des images et du son.
Oui.
Et ça me correspond.
Voilà. Et puis c'est vrai que le thème des expériences de mort imminente, on provoque des réactions.
C'est ça, exactement. Après, bon, le livre, c'est sympa, hein, je me suis éclaté, hein, je me suis régalé. Hein.
Bon, en tous les cas, on se régale à le lire.
Merci.
Mais je m'y attendais pas, parce que c'est vrai, quand on dit Amy, on dit oulala, peut-être un peu encore des témoignages, des machins. Puis en fait, non, on plonge là-dedans, je vous dis, un peu comme un roman et avec l'expérience. Quoi.
Puis avec l'autodérision, pour faire un peu plus léger. Quoi.
C'est vrai. Voilà. Vous n'avez pas peur de vous moquer un peu de vous-même aussi.
C'est ça, là, il faut.
Puis de nous faire sourire. En tous les cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Serge.
Je rappelle le titre du livre, et si cela vous arrivait...
Ces expériences de mort imminente qui transforment nos vies.
C'est la deuxième partie, je m'en rappelle plus. Ces expériences de mort imminente qui transforment nos vies chez donc
Lotus
et l'éléphant
Hachette.
Chez Hachette, quoi. Voilà. Merci Sonia Berkala. À bientôt peut-être.
Merci Serge.